Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 24 février 1992.
Le Saint-Père m'a dit de vous dire mille choses, de vous transmettre mille choses, puisque à Popinguine, c'était le curé de Popinguine qui le recevait. Tout le monde était déjà installé au lieu où avait la messe. Dans l'église, il n'y avait que les petites sœurs qui étaient là, les petites sœurs de l'Afrique, dont se chargent les frères et puis les frères. Donc dans l'église paroissiale, il n'y avait personne sauf les religieuses et la communauté. Nous, on était, tu vois, le curé était là, et comme le curé m'a dit, quand même, père, venez avec moi. Alors j'étais là avec lui, il n'y avait personne, la place était vide, complètement. Le Saint-Père est arrivé en auto, et avant d'arriver à l'église, il y a quand même, je sais pas, 50 mètres. Il a reçu sa mère, puis j'étais à côté. Alors, évidemment, quand le curé salue respectueusement le pape, moi j'étais derrière, le pape m'a pris, m'a embrassé. De sorte que, quand j'ai pris l'avion le lendemain, puisque ça c'était vendredi, l'hôtesse m'a dit, mais c'est vous qu'on a vu à la télévision et que le pape vous a embrassé. Alors j'ai dit oui, j'ai eu presque envie de dire, je crois que je mérite d'être en première classe. C'était très important, ce pèlerinage du pape, par rapport aux relations entre chrétiens et musulmans au Sénégal. Parce qu'il commence à y avoir comme une espèce de division entre les musulmans qui ne veulent rien savoir par rapport aux chrétiens et les musulmans qui comprennent qu'il faut marcher ensemble. La dernière grande réunion des musulmans au Sénégal, le président du Sénégal, Diouf, a été nommé le premier, mais tous les grands chefs musulmans étaient absents. De l'Arabie Saoudite, du Maroc, de tout, c'est-à-dire le monde arabe. Le monde arabe musulman n'était pas là, et avec les musulmans, proprement d'Afrique noire. Il a été nommé le premier. Et il a reçu le pape dans une charité fraternelle étonnante, en montrant que c'est l'heure de l'union de la charité fraternelle en face de la laïcité, du refus de Dieu. Se montre partout. Ça, c'était très grand. Alors, il est très grand, il mesure 2,05 m. Le pape paraît tout petit à côté. C'est extraordinaire de voir ça. Mais c'était très beau. Son épouse est catholique. Et très profondément catholique, elle était présente à toutes les messes du Saint-Père. Lui n'était pas présent parce que on demande depuis qu'il y a eu certains événements au chef d'État de ne pas apparaître dans les manifestations religieuses, que l'on en profitait pour faire essayer de l'attaquer. Mais tous les chefs religieux du Sénégal, musulmans, étaient là présents. C'était beaucoup plus que simplement un petit pèlerinage du pape au Sénégal. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça, tout le monde a ressenti. À ce point de vue-là, c'était très beau. C'est pour ça que vous priez, parce que c'est les rapports entre musulmans et catholiques au Sénégal, vous savez, c'est quand même quelque chose de très particulier, puisqu'il y a 90% de musulmans. Et des musulmans, la dernière fois que j'avais été à Bobinguine, le chef du village musulman m'avait remercié d'avoir envoyé le père Louis-Marie là, en disant « C'est merveilleux parce que il nous regarde avec autant d'amour qu'il nous regarde les chrétiens. » Et il avait ajouté « Mon cœur est catholique. » Et c'est très vrai. Je crois que pour beaucoup de musulmans, ils peuvent dire « Mon cœur est catholique. » Parce qu'ils sentent qu'il y a chez les catholiques une charité fraternelle, vraie, authentique vis-à-vis de tous. Qu'on ne fait pas un partage. Mais à Kermoussin, c'est comme ça aussi. Hein. Ils regardent de la même façon catholiques et musulmans. Et ça, ça les touche beaucoup. Et le petit lieu artisanal qu'on a, que Monique Cattier a fondé là-bas, on ne regarde pas s'ils sont catholiques ou musulmans. C'est pour eux. Et ça, ils sont très sensibles à ça. On comprend du reste. Ils sont des pauvres. Alors dans la pauvreté, il y a tout de suite l'unité. C'est ça qui... Les musulmans de l'Arabie, c'est d'où ils doivent des autres, sont riches. Elle arrive à le dominer. Là, pas du tout. Ils sont des pauvres qui luttent pour vivre, pour survivre. Et alors quand ils voient que le prêtre est là, le missionnaire est là, pour, aussi bien pour les catholiques que pour eux, tout de suite, leur cœur s'ouvre. Alors maintenant, mettons-nous à la métaphysique. Il n'y a qu'au Sénégal où que Saint-Père m'a pas dit « Et la métaphysique son cœur. Alors, la dernière fois, je vous ai rapidement montré les cinq modalités. Alors, paraît-il que certains ont demandé qu'on revienne un peu sur le point de vue du bien. Et c'est vrai que c'est très important. Qu'est-ce que la métaphysique peut dire du bien ? Vous savez bien qu'il y a une tentation permanente de dire il y a la métaphysique de l'être et il y a la métaphysique du bien. La métaphysique de l'être, Thomas d'Aquin, la métaphysique du bien, Bonaventure. Au fond, on pourrait dire métaphysique de l'être, Aristote, métaphysique du bien, Platon. Et le néoplatonisme, qui met le bien au-dessus de tout. Alors, y a-t-il deux métaphysiques ? Une métaphysique de l'être, une métaphysique du bien. Vous voyez, je crois qu'il faut poser la question de cette manière-là. Historiquement, c'est très vrai, la question se pose comme cela. Et on est tenté de dire deux métaphysiques. Parce qu'on a l'impression que la métaphysique de l'être ne peut pas, par elle-même, découvrir vraiment la métaphysique du bien. Et c'est pour ça que c'est si important de découvrir l'être en acte. Quand vous découvrez l'être en acte, distinct de l'être en puissance, vous découvrez par le fait même la possibilité de comprendre ce que c'est que le bien. tient implique l'exister. Oui. Il répugne au bien d'être regardé comme un idéal. Et aujourd'hui, c'est très important, parce que quand on parle de la philosophie des valeurs, d'une politique de valeurs, oui, c'est au fond toujours un certain idéalisme qui demeure. À la place de regarder le bien comme l'être en acte, on le regarde comme une idée, causalité exemplaire, la valeur. Et on est très tenté de faire ça. C'est très tentant de regarder le bien comme un idéal. Platon, quand il regarde le bien en soi, le regarde comme l'idée suprême. Donc bien comme la causalité exemplaire, suprême. Et je ne veux pas dire qu'il n'atteint pas la causalité finale, mais il l'atteint sous le mode de la causalité exemplaire. Donc sous un mode idéal. Et il n'atteint pas en elle-même. Le bien vu en lui-même, en acte. Ou bien alors, ça c'est la position de l'idéal, d'un idéaliste. Et le succès d'Anné, c'est de regarder les valeurs. Ou bien alors, on dit, le bien, on ne peut le regarder qu'en éthique. Donc on n'a plus de métaphysique du bien. De fait, il faut bien se dire ça, dans la scolastique décadente, on a fait cette division, cette distinction, très nettement. On ne regarde plus la philosophie de l'être en acte, comme un aspect essentiel et ultime de la métaphysique. Regardez, dis ça comme petit signe, le petit livre du père Gardeil sur la métaphysique de saint Thomas. C'est extrêmement significatif. Vous regardez la table des matières, vous voyez substance et accident, essai. Et on ne parle plus de l'être en acte. Or, l'essai ne me fait pas comprendre ce que c'est que le bien. Le bien implique l'essai, mais l'essai n'est pas le bien. Oui. Et c'est peut-être ça qui va le mieux nous faire comprendre. Comment il y a une métaphysique du bien. Et il faut bien la saisir, cette métaphysique du bien. Elle a quelque chose d'original. Mais cette métaphysique du bien n'est pas une nouvelle métaphysique. C'est la métaphysique de l'être en acte. Je vous disais, si vous vous souvenez bien, eh bien, laissez. Très difficile à traduire. Le Do Einein. Évidemment, c'est l'être. Puisque c'est l'infinitif. Je vous disais que Gilson disait que chez saint Thomas, il y a une nouvelle métaphysique, la métaphysique de l'essai. Alors que Aristote disait métaphysique de la substance. D'où on dira ousion, logie. C'est Gilson qui dit ça. Aristote, c'est l'ousiologie. C'est le logos de l'ousia. Puis ça a été répété après. C'est quand il original. Et alors on opposera métaphysique d'Aristote, métaphysique de saint Thomas. Alors, avant de répéter ça, comprenons ce qu'on veut dire. Et ce que même saint Thomas veut dire. Saint Thomas, quand il veut préciser ce que c'est que l'essai, dit « actus essenti », je vous l'ai dit. Je le répète parce que c'est très important de le saisir. Or, en métaphysique, c'est ce que nous voyons maintenant, où il faut saisir ça. Une fois que vous aurez saisi ça, vous ne pourrez plus dire ce que dit Gilson. Parce que vous verrez que c'est faux. Quand saint Thomas veut préciser ce qu'est l'essai, il dit « actus essendi ». Saint Thomas précise l'essai de diverses manières, cinq manières. Égal, regardez dans la petite plaquette que j'ai écrite là-dessus. Cinq manières. Dans saint Thomas, vous voyez cinq significations de l'essai. Dans le De Optimatibus, donc le commentaire du De Optimatibus de Boès, saint Thomas met toujours la distinction entre ens et esse. Il dit ens, forme concrète, esse, forme abstraite. Et il met blanc, blancheur. Il fait l'analogie entre les deux. Vous comprenez que quand on prend l'esse au plan métaphysique, ce n'est pas la forme abstraite de ens. Et on définit esse, actus essendi. Actus essendi n'est pas la forme abstraite de ens. Donc on peut dire qu'il y a diverses manières de regarder l'essai dans saint Thomas lui-même. Quand saint Thomas dit que l'essai c'est la forme des formes, il prend essai abstraitement. Quand il dit que l'essai c'est l'actus essendi, il veut préciser l'essai à partir de l'acte. Donc, vous voyez bien, c'est complexe, hein, c'est pas commun, c'est comme toujours le langage de saint Thomas. C'est un langage de théologien. Il a le droit de faire ça en tant que théologien. En tant que philosophe, ça n'irait pas. Mais en tant que théologien, il a le droit, il est au-dessus. Alors il se sert de l'essai. Dans le traité de la création, saint Thomas dira que l'essai, c'est la ratio formalis creationis. C'est la raison formelle de la création. C'est l'essai participer. Comprenez que l'essai participer, raison formelle de la création, ce n'est pas l'essai pris d'une façon abstraite. C'est actus essendi. Donc, chaque fois que saint Thomas emploie essai, que vous le rencontrez, demandez-vous, qu'est-ce que ça signifie pour saint Thomas? J'ai fait l'enquête, j'ai tout lu, tout saint Thomas, et j'ai relevé chaque fois que saint Thomas employait essai. Et j'ai vu qu'il y avait cinq manières différentes. Et c'est toujours essai, mais c'est pris de façon très souple. Vous voyez, de façon très très, c'est pas étonnant, puisque essai représente au plan philosophique, essai au plan philosophique représente l'acte essendi, l'acte de ce qui est capable d'exister. Qu'est-ce qui est capable d'exister? C'est la substance, puisque le propre de la substance est de subsister. Donc, je peux dire que l'essai, c'est le mode particulier de l'être en acte par rapport à la substance. C'est-à-dire par rapport à la réalité en tant qu'elle va exister. Mais vous voyez, dire que l'essai est actus et sandi, ça veut dire que je veux préciser ce que l'essai par l'acte, donc par l'être en acte. Ce qui veut dire que pour saint Thomas, l'être en acte est quelque chose de plus fondamental que l'essai. Ça, il faut essayer de saisir. Il faut secouer saint Thomas dans tous les sens. Et bien comprendre ça. De sorte que dire qu'il y a une métaphysique de l'essai distincte de la métaphysique d'Aristote, c'est oublier qu'Aristote, dans le livre Theta, parle de l'être en acte comme fin. Et que l'être en acte est distincte de l'être-substance. La substance, principe selon la forme de ce qui est. L'acte, principe selon la fin de ce qui est. Donc, on est en face de deux principes propres de ce qui est. L'un selon la forme, l'autre selon la fin. Or, la forme, c'est ce qui détermine. La fin, c'est ce qui est ultime. Et que pour saisir ce qui existe en tant qu'il est, il faut saisir son principe propre. Mais il y a deux principes irréductibles, la substance et l'être en acte. C'est irréductible. Je ne peux pas ramener la fin à la substance. Je ne peux pas prétendre que la substance, c'est la fin. Pourquoi ? Parce que je suis au niveau des principes, donc d'une analyse, d'une induction. Cette saisie de cette cause propre. Ça, il faut essayer de le comprendre. Parce que c'est capital. Donc, je reviens à Gilson. Quand il prétend qu'il y a une métaphysique distincte dans saint Thomas, la métaphysique de l'essai, distincte de l'ousiologie, je suis tout à fait d'accord avec lui que je ne peux pas ramener l'essai à la substance. Mais n'oublions pas qu'Aristote, dans le livre Theta, essaie de comprendre ce que représente la cause propre selon la fin de ce qui est en tant qu'être. Et vous voyez, quelqu'un comme Heidegger, lui reconnaît que ce qui a d'ultime dans toute la philosophie grecque, c'est l'entelecheia. C'est intéressant de voir que Heidegger reconnaît que c'est l'entelecheia, donc l'être en acte, qui est la saisie ultime de toute la philosophie grecque. Où Heidegger ne va pas assez loin, c'est qu'il oublie que l'entelecheia ne doit pas s'identifier à energeia. Energeia, l'être en acte, l'entelecheia peut être l'être en acte. Pour le vivant, l'entelecheia, c'est la vie en acte. Quand je contemple, c'est la vie en acte. Je suis un vivant en acte. Quand je vous parle, je suis un vivant en acte. Surtout si ma parole a une signification métaphysique. Si ma parole était simplement pour vous raconter un fait historique, ma parole, c'est bien celle d'un vivant en acte, mais je n'atteins pas ce qu'il y a de plus vivant, de plus acte en moi. Il y a des degrés. Quand je mange, je suis un vivant en acte, je dévore. Et il ne faut jamais s'approcher d'un vivant qui dévore, parce qu'il a de bonnes dents. Il est en acte. Alors, pour le chien de garde, c'est entelekeia. L'attaque, son irascible est là. Pour un homme, c'est dommage d'être le sommet quand il est celui qui dévore. Pour l'homme, l'entelekeia, c'est la contemplation. Mais la contemplation, c'est la contemplation du bien. Et le bien est plus que la contemplation, puisque le bien, c'est Dieu. Energeia. L'être en acte. Voyez ? Alors, où Gilson se trompe, c'est qu'il oublie le livre Theta d'Aristote. Ce qui est grave. Puisque saint Thomas lui-même dit que l'essai actus essendi. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, pour comprendre l'essai, il faut regarder l'acte. L'être en acte. Bon. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Mais si vous avez quelques minutes, regardez toutes les significations de l'essai dans saint Thomas. Ça vaut la peine pour ne pas faire de contresens. Et ça le soupire, parce que là, ça implique un regard très analogique. C'est pas un manque de précision, c'est simplement un regard analogique. Puisque la fin contient la causalité efficiente et la causalité formelle. La forme actue. Et la forme est source d'efficience. Donc, ce n'est pas du tout une confusion. C'est tout simplement comprendre que la fin, c'est la cause des causes. Si la fin est cause des causes, elle implique la causalité efficiente, elle implique la causalité formelle. Tandis que je ne peux pas dire que la causalité formelle implique l'acte. Mais je peux dire que la forme actue. Oui, c'est assez subtil tout ça. Il faut bien comprendre ça. Alors, j'en arrive maintenant au bien. Je dis que parmi les modalités de l'acte, il n'y a pas que l'essai, il n'y a pas que le vrai, il y a le bien. Et que c'est l'être en acte qui permet de saisir toute l'intelligibilité du bien. Le bien, c'est l'être en acte pour l'esprit. C'est l'être en acte pour la personne humaine, pour l'âme spirituelle. Le vrai, c'est l'être en acte pour l'esprit en tant qu'il est intelligent. bien, c'est l'être en acte pour l'esprit en tant qu'il est appétit spirituel, en tant qu'il est volonté. Or, la volonté, c'est l'appétit du sujet. C'est la faculté du sujet. Le bien regarde toute la personne humaine. C'est mon bien. Et vous ne pouvez pas dire c'est ma vérité. Hein? Quand vous dites c'est ma vérité, on a envie de lui dire pauvre type, tu ne vas pas assez loin. Tandis que vous dites c'est la vérité. Et vous avez le droit de dire que c'est mon bien. Alors, il faut tout de suite corriger. C'est mon bien parce qu'il est le bien. Et le bien, c'est le bien du sujet. Alors, comprenons bien. C'est vrai. C'est en éthique que je saisis le bien dans son exercice propre de bien. Le bien exerçant sur moi sa finalité. Et la finalité du bien, c'est de m'attirer. Le bien m'attire. Le bien est capable de m'attirer. Le bien exerce sur moi cette finalité très particulière qui est de m'attirer. Le bien m'attire. Alors je saisis là le bien en exercice même de bien. Le bien suscite en moi un amour. Et le bien, quand il m'attire, fait que je l'aime. Aimer le bien, c'est subir l'attraction du bien. Et je ne subis l'attraction du bien que par l'amour. C'est pour ça que je suis suspendu au bien, en tant que bien. Et je saisis le bien à ce moment-là, dans son exercice même de bien. C'est l'éthique qui saisit le bien dans son exercice de bien. La métaphysique, quand elle dit que le bien, c'est l'être en acte, pour l'esprit, en tant que l'esprit implique la capacité d'aimer, en tant que l'esprit implique la volonté. À ce moment-là, je ne regarde plus le bien dans son exercice de bien, mais je regarde le bien en lui-même, comme bien. Je dis qu'il est l'être en acte. Pour l'esprit, volonté. Donc, vous voyez bien, je suis tout à fait d'accord, et je crois que là, il faut le comprendre, que j'ai deux regards tout à fait différents sur le bien. Et je ne peux pas identifier ces regards, ces deux regards, je dois les accepter. L'un me permet de saisir le bien en tant qu'il m'attire. Le bien, c'est ce que tous désirent. Aristote ne dit pas ça en métaphysique. Il dit ça en éthique. Le bien, c'est ce que tous désirent. C'est très beau. C'est pas une définition du bien. C'est l'exercice du bien. Je peux dire à un homme, tu es mon ami, dans la mesure où cet homme exerce sur moi un amour, son attraction. Alors, je suis attiré par lui. suis séduit par sa beauté. Et je suis attiré par sa bonté. Il faut faire la distinction entre les deux. Tant qu'on n'a pas fait la distinction entre les deux, on a, au plus intime de nous-mêmes, un malaise. Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je suis séduit ? Petit examen de conscience philosophique. Excellent ! Parce qu'au plan moral, vous, bon, je ne sais pas, je suis séduit par lui, je l'aime, sans point d'importance. Je ne fais pas la distinction. Ah, attention ! Faites pas la distinction parce que vous restez à un niveau passionnel. Au niveau passionnel, vous ne distinguez pas la séduction et l'amour. C'est le drame. Et au niveau amour spirituel, vous faites la distinction. Donc, je reconnais que dans l'ordre de l'exercice, le bien est souverain. En éthique, le bien est souverain, c'est pas l'être. En éthique, le bien est ce qu'il y a d'ultime. Au point de vue de l'intelligibilité, je dis que c'est l'être qui est ce qu'il y a de plus intelligible. L'intelligibilité regarde la réalité en elle-même et non pas en tant qu'elle exerce sur moi une attraction. Je regarde la réalité en elle-même, en tant qu'elle est. Et je dis qu'au point de vue de l'être, le bien, c'est l'être en acte. Bien à l'être. Il n'y a pas donc deux métaphysiques de l'être. Deux métaphysiques, celle de l'être et celle du bien. Il n'y a qu'une seule métaphysique. La métaphysique de l'être qui implique la métaphysique du bien par l'être en acte. Si ma métaphysique se terminait à l'ousia, je serais tout à fait d'accord de dire que la métaphysique de l'ousia, de la substance, ne peut pas saisir ce qu'il y a de propre dans le bien. Mais ma métaphysique de l'être en acte peut saisir ce qu'il y a de propre dans le bien. Pourquoi ? Parce que justement, le bien, c'est l'être en acte. Par rapport à mon esprit. Vous voyez bien, c'est très très important de saisir cela. Autrement, on maintiendra toute sa vie deux métaphysiques, celle d'Aristote, celle de Plotin, celle de Platon. Il n'y a pas deux métaphysiques, il n'y en a qu'une, celle de l'être. Alors vous allez me poser la question, pourquoi c'est pas la métaphysique du bien ? Ah, moi je suis plutôt du côté de sa bonne aventure. Je suis plutôt du côté de sa bonne aventure. C'est beaucoup mieux, sa bonne aventure. Tous les gens qui sont bon aventuriens, c'est beaucoup mieux. Au moins, ils ont le cœur sur la main. Tandis que les aristotéliciens, ils sont froids. Pff, là. C'est l'être. C'est bonne aventure, c'est merveilleux. Alors pourquoi ne suis-je pas bon aventurien ? Et pourquoi je ne renouvelle pas la métaphysique par la métaphysique du bien ? Alors, première raison, fidélité à Thomas d'Aquin. Et par là, fidélité à l'Église. Puisque saint Thomas nous dit que l'essai, c'est actus essendi, et que le bien implique l'essai. saint Thomas, n'est pas une raison métaphysique. C'est la canne du métaphysicien. Ou parce qu'il est trop jeune, ou parce qu'il est trop vieux. Alors il prend une canne. Fidélité à Thomas d'Aquin n'est pas une raison métaphysique. C'est une raison humaine, très valable. Parmi les raisons humaines, c'est la plus valable. Mais ce n'est pas une raison philosophique. Alors, pourquoi métaphysique de l'être? Parce que le jugement d'existence est plus fondamental que le jugement sur la bonté. Quand je dis « Pierre existe », je ne dis pas encore qu'il est bon. Tandis que quand je dis « Pierre est bon », je veux dire qu'il existe, mais qu'il est bon. Pas la même chose de dire qu'une réalité existe ou qu'une réalité est bonne. Je reviens au jugement d'existence. Et je montre bien que le jugement d'existence est quelque chose de plus fondamental que le jugement d'estimation sur la bonté de quelqu'un. C'est très important au point de vue pratique de dire que Pierre est bon. Oh, je t'affirme, tu peux y aller, il est bon. Il ne te trompera jamais. Tandis que quand je dis il existe, le voleur existe, le pirate existe, le tyran existe. Il n'est pas bon. Alors, est-ce que le jugement d'existence est quelque chose de primordial et de plus fondamental que le jugement qui implique une estimation sur la bonté? Ça, je crois que c'est facile à comprendre. Alors, faisons toujours le petit raisonnement d'Aristote. Quand vous devez comparer deux choses, ici vous comparez. Pierre existe. Pierre est bon. Comment comprendre la distinction entre ces deux jugements que nous pouvons tous comprendre? Alors, Aristote regarde d'abord toujours le point de vue de l'extension. Pierre est bon implique Pierre existe. Le jugement Pierre est bon est plus complexe que Pierre est. Grammatical, c'est net, c'est un petit signe. Et quand vous dites Pierre est, vous dites simplement qu'il existe, il est. Et quand vous dites que Pierre est bon, vous avez une autre référence. Vous avez une référence à vous. Oui, vous dites à un ami, Pierre est bon. Il dira, pourquoi dis-tu qu'il est bon? J'en ai l'expérience. Le pape est bon. On le voit tout le temps. Telle référence. Il y avait une photographie. C'est rare que je pense aux photographies. Mais là, je pense aux photographies. Il y avait un jeu de main extraordinaire. Quand on voyait toutes ses mains et la main du pape, il fallait toucher la main du pape. Elle a envoyé 50 mains autour pour toucher. Parce que la bonté, ça se touche. L'existence, il suffit de le voir. Le pape existe, je l'ai vu. Il est bon, j'ai touché. C'était très, très curieux. C'était pour avoir. Il lui, Irine. Une, je sais pas si, si les photographes qui étaient là pensaient à ça. Il y avait un tableau magnifique à voir. 40 mains qui, vous voyez, qui percent, qui luttent. Il fallait pas regarder la figure. La main seulement. Touchée. Et vous savez bien, la création. Le doigt de Dieu, le doigt de l'homme. Et là, vous voyez ça au point de vue de la bonté. Quand je dis Pierre est, il existe. C'est tout. Je touche son être. Quand je dis Pierre est bon, je fais allusion implicitement, mais en acte, à une quantité d'expérience. Il est bon. Il me touche. Il atteint mon cœur. Il m'attire. Je l'ai vu en face de la misère. Il est bon. C'est un cœur pitoyable. Il se laisse prendre, attendrir. L'autre, il est. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Je n'en sais rien. Il est. Donc, est fondamental par rapport à est bon, qui implique une référence à autre chose de l'existence. Je peux donc dire que tout ce qui est bon existe, mais que tout ce qui existe n'est pas nécessairement bon. Il y a donc une extension plus grande du côté de l'exister. C'est donc quelque chose de plus fondamental, de plus radical. Qu'ajoute bonté à exister? Qu'ajoute bonté à exister? Bonté ajoute à exister le fait que cette réalité qui existe est capable de susciter en moi un amour. Capable de me finaliser. Donc, voyez, je saisis tout de suite là que si le bien implique l'exister, la métaphysique du bien implique la métaphysique de l'être. Et si je ne regarde qu'une métaphysique du bien, il y a quelque chose que je n'atteindrai jamais. Le bien demande d'exister. Et quand je ne vois pas ça, je risque alors de ne regarder que l'attraction du bien. Et je risque d'idéaliser cette attraction du bien. Il y a un idéalisme qui naît à partir de là. Je ne me marierai qu'avec Miss Idéal. Mon grand-père disait toujours ça par rapport à ses vieux amis qui avaient des soifs pontificales. Puis à Beaujolais, il a annoncé qu'il se marierait. Alors tous ses amis ont été voir Miss Idéal. Je l'ai vu. Oui, on idéalise le bien. Et quand on idéalise le bien, ce n'est plus le bien. Le bien existe. C'est là où on voit comment la métaphysique du bien implique la métaphysique de l'être. Et que la métaphysique de l'être, la métaphysique du bien impliquant la métaphysique de l'être, me permet de comprendre que le bien, c'est l'être en acte. En premier lieu, fondamentalement, mais que la métaphysique du bien va impliquer autre chose. Le bien, il est, et il a cette capacité propre au bien, un amour spirituel, d'éveiller, d'actuer ma capacité d'aimer. Et quand je dis ça, je veux dire que le bien, justement, a quelque chose de très particulier. C'est qu'il peut finaliser, c'est-à-dire permettre à une réalité spirituelle de se dépasser et de s'achever dans une réalité qui est son bien. présuppose pas l'éthique de l'être. L'éthique du bien, c'est l'éthique tout court. Et l'éthique, c'est l'éthique du bien. Pourquoi ? Parce que l'éthique regarde l'opération humaine. Entelekeia. Elle regarde la vie. La vie de l'homme. La vie d'un être spirituel. Capable de responsabilité, capable d'aimer. Et c'est pour ça qu'au niveau éthique, la bonté est première. Une éthique, c'est l'éthique du bien. C'est pas l'éthique des valeurs. C'est l'éthique du bien. C'est pas l'éthique des vertus. C'est l'éthique du bien. C'est une éthique qui atteint la finalité. Vous voyez, il faut comprendre qu'une philosophie métaphysique, philosophie première, implique nécessairement, j'allais presque dire un contrepoids, qui est l'éthique de l'homme, du bonheur de l'homme, et que la métaphysique du bien ne suffit pas pour comprendre ce que c'est que le bien. Il faut l'éthique du bien pour saisir l'exercice particulier du bien. Et que l'exercice particulier du bien, sûrement,